Je voudrais lire le psaume 96, donc 96 du verset 7, avant la prière. Psaume 96 du verset 7. Donnez à l'Éternel, descendant des peuples, donnez-lui la gloire et l'honneur. Donnez à l'Éternel la gloire de son nom, faites des offrandes, entrez dans ses parvis, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements saints, tremblez devant lui, vous tous les pays, annoncez parmi les nations, l'Éternel est roi. Le monde sera inébranlable et ne chancellera pas. Il jugera les peuples selon la justice. Que les cieux se réjouissent, que la terre pousse des cris de joie, que la mer rugisse avec tout ce qui s'y trouve. Que la campagne et ce qu'elle produit poussent des cris de joie. Alors tous les arbres de la forêt pousseront des cris de joie devant l'Éternel quand il viendra. Quand il viendra pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples avec sa fidélité. Principalement, les trois premiers versets que nous avons lus. Donnez à l'Éternel, descendant des peuples, donnez-lui la gloire et l'honneur. Donnez à l'Éternel la gloire de son nom. Donnez à l'Éternel la gloire de son nom. Faites des offrandes, entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant lui, l'Éternel, avec des ornements saints. Plus tard, lorsque nous lirons l'Apocalypse, nous verrons que les 24 anciens se sont prosternés et que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et sous la terre offrira au Seigneur les remerciements qui lui sont dus. Aujourd'hui déjà, nous sommes invités à offrir au Seigneur les remerciements qui lui sont dus, l'honneur et la gloire qui lui sont dus, l'honneur de son nom. Le verset 9, psaume 96, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements saints. Tremblez devant lui, vous tous les pays. Que Dieu nous fasse la grâce d'arriver aujourd'hui devant sa face dans une attitude intérieure telle qu'il la souhaite. Non pas comme nous le voulons ou le pensons, mais comme il le veut. Comme sont venus en sa présence ceux à qui il a parlé, à qui il a révélé sa parole et sa volonté. Il faut du respect et du recueillement dans la présence de Dieu pour écouter vraiment sa parole de manière juste et pour recevoir ce qu'il a à nous dire. Que notre prière commune, même si nous ne pouvons pas nous prosterner ici, soit que nous puissions néanmoins le faire dans notre cœur avec adoration et dévotion et recueillement devant la face du Dieu Tout-Puissant, en lui offrant la gloire de son nom, comme nous l'avons chanté dans ce cœur et comme nous allons encore l'observer plus tard à partir de l'Apocalypse, tu es digne, tu es digne, tu es digne, ô Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur. L'adoration, la renommée, tu es digne, ô Seigneur. Qu'il nous rende dignes, toi et moi, de multiplier sa gloire et de lui offrir l'adoration. Et qu'il me soit encore permis de faire cette remarque tirée de Jean 4. Là, dit notre Seigneur, les vrais adorateurs adore Dieu en esprit et en vérité. Puisse l'Esprit de Dieu nous donner une adoration unifiée afin que nous puissions offrir aujourd'hui ensemble à notre Seigneur, à qui revient toute la gloire dans les cieux et sur la terre, l'honneur et la louange pour ce qu'il a fait, et cela avec tout notre cœur. Vous savez que nous n'avons pas la possibilité de prier tous les uns après les autres, mais nous pouvons tous, non pas à voix haute, mais d'un ton modéré, offrir ensemble notre adoration au Seigneur. Au ciel, il n'est pas possible d'adorer les uns après les autres. Sinon, il faudrait une demi-éternité pour que le dernier ait adoré. Si nos cœurs sont vraiment accordés et que l'adoration peut être opérée par l'Esprit de Dieu, alors nous ne faisons ni trop de bruit, ni trop peu, ni trop longtemps, ni trop brièvement, il n'y aura alors rien de dérangeant dans ton adoration et dans la mienne, si elle est opérée par l'Esprit de Dieu. Mais laissez-moi encore remarquer cela. Remarquez ceci. Beaucoup ne connaissent que les services divins dans lesquels un seul prie, un seul prêche et tous se contentent de dire amen. Mais le service divin tel que Dieu le veut, c'est que nous nous joignions tous de tout cœur à la louange de son nom. Et vous constaterez, lorsque nous continuerons à lire plus tard, que cela s'est passé dans le ciel. Et si nous faisons partie de ceux qui veulent un jour être avec ceux qui sont déjà au ciel pour l'éternité, alors nos cœurs doivent déjà être accordés à cela ici. N'oublions pas le sens fondamental de cette parole. Donnez à l'Éternel l'honneur et la gloire. Donnez à l'Éternel la gloire de son nom. Il relit la deuxième partie du verset 7, 8 et 9 du psaume 96. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements saints. Que le Seigneur nous l'accorde par sa grâce, nous le levons pour la prière. Père Céleste, nous venons ensemble à toi, ô Dieu, dans le nom précieux et saint de notre Seigneur Jésus-Christ, pour t'offrir la louange et l'honneur, la gloire et l'adoration. Seigneur, toi seul es digne de prendre le livre, d'en défaire les sceaux, d'en révéler le contenu, car tu as vaincu. Sauveur bien-aimé, prends-nous aujourd'hui, que tout esprit qui pourrait déranger soit banni du milieu de nous. Que ton Esprit Saint seul guide et dirige les cœurs et les pensées, les paroles et tout ce qui doit être dit et fait. Viens, toi, Seigneur, à ton droit. Reçois ce qui te revient de plein droit dans ce service divin. Sauve les perdus. Guéris les malades. Libère tous ceux qui ne peuvent pas se libérer eux-mêmes. Tu es le même hier, aujourd'hui et le même dans toute éternité. Fortifie notre foi. Ô Seigneur, nous voulons t'honorer par la foi en ce temps ultime et grave. Dans ce dernier temps, aide-nous à nous prosterner devant toi dans une sainte parure, ô Dieu. Touche nos cœurs aujourd'hui. Oins-nous de la puissance de ton esprit et touche nos langues avec le charbon de l'autel, comme tu l'as fait avec Ésaïe. Et ces mouchoirs qui ont été apportés pour que l'on prie dessus. Ô Dieu, tu connais la détresse de ces gens. Je te prie, comme au jour des apôtres, de répondre maintenant que les malades soient guéris et que ton nom sois glorifié par ton action. Nous te remettons ce service divin et te prions. Purifie-nous par la puissance de ton sang. Sanctifie-nous dans la vérité révélée de ta parole. Et glorifie toi-même ton nom au milieu de nous. Nous t'en remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Cet après-midi, nous allons devoir combiner deux choses. D'une part, une brève méditation de la parole prophétique. Et d'autre part, quelques indications pour le baptême qui aura lieu à l'issue de ce service divin. Il est en effet habituel et nécessaire d'aborder ce thème avant un service de baptême. Mais permettez-moi de citer brièvement quelques versets, sinon tous, du chapitre 5 d'Apocalypse, et d'exprimer quelques pensées à ce sujet. Apocalypse chapitre 5, du verset 1. Et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et scellé de 7 sceaux au dos. Puis je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier ses sceaux ?» Mais personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'a pu ouvrir le livre et voir son contenu. Alors je pleurais à chaudes larmes parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de voir son contenu. mère. L'un des vieillards me dit, ne pleure pas, voici que le lion de la tribu de Juda, la racine de Daniel, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Tout d'abord, jusqu'ici, nous savons qu'après que Jean eut vu les sept églises et donné par l'Esprit les messages à cette église qui avait un caractère prophétique, il lui fut montré une porte dans le ciel qui était ouverte. C'est au chapitre 4. Mais ici, au chapitre 5, il s'agit du livre scellé. Je ne sais pas si vous avez tous lu le traité, la révélation sur les sept sceaux de Frère Branham, mais il parle de ce livre dans ce contexte comme du livre de la rédemption. Et pendant un certain temps, je n'ai pas trop compris cette pensée que l'Apocalypse serait le livre de la rédemption. Ou bien alors les sceaux. Car qu'est-ce que le livre de la rédemption? Jusqu'à ce que je comprenne que seuls les rachetés peuvent avoir une part de ce qui était écrit dans le livre scellé. Il n'est pas destiné au monde, ni aux incroyants, ni à ceux qui rejettent Dieu. Il s'adresse aux rachetés, dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau immolé. C'est à eux et à eux seuls que Dieu ouvrira le cœur et la compréhension. Pour cela, tous les autres passeront à côté, comme si Dieu n'avait rien fait du tout. Or, s'il est écrit ici, « Je vis alors un ange puissant qui s'écria d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier ses sceaux. » Ça, c'est une question puissante. Et nous savons qu'au ciel, il y avait déjà Michaël, Gabriel, il y a en effet des princes, des anges, il y a des chérubins, des séraphins. Il y en a beaucoup qui auraient peut-être été dignes de notre jugement. Et c'est ce qui s'est passé après que, selon Matthieu 27, les saints de l'Ancien Testament soient non seulement ressuscités avec Jésus, soit pas seulement ressuscité avec Jésus, mais soit aussi entré avec lui dans la gloire. Il y avait donc Abraham, Isaac et Jacob. Il y avait déjà suffisamment de personnes à qui Dieu s'était révélé, qu'il avait particulièrement béni et auxquels il avait fait des promesses, des hommes de Dieu dont il est écrit dans le Nouveau Testament que Dieu a parlé par des hommes saints poussés par le Saint-Esprit. Mais tous ces saints hommes, de Dieu, tous ces saints chérubins et séraphins, que ce soit Michaël ou Gabriel, ils n'avaient pas accès à ce livre. Seul celui qui a payé le prix de la rédemption pour ton âme et la mienne, seul celui qui nous a rachetés au prix de son sang, seul celui-là pouvait prendre ce livre. C'est le livre de la rédemption pour les rachetés. Oh, quelle grâce si nous pouvons accueillir cette pensée, recevoir cette pensée en nous, et si elle peut nous être révélée par le Saint-Esprit. La question est, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en défaire les sceaux? Non pas qui est capable, qui peut le faire, mais qui est digne. Et nous verrons ensuite ce qui se passe ici au verset 3. Mais personne dans le ciel, Apocalypse 5, verset 3 maintenant, mais personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre et voir son contenu. Verset 4. Alors je pleurais à chaudes larmes parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de voir son contenu. Vous savez, quand quelqu'un pleure à haute voix, à chaudes larmes, ce n'est pas seulement un pleur comme on pourrait l'entendre tous les jours. C'est un pleur d'émotion intérieure. Si l'on ne veut pas dire presque de désespoir, quand on peut s'abandonner à un tel pleur bruyant, et cela en présence de Dieu. Mais tout à coup, ces pleurs ont pu prendre fin, et c'est si merveilleusement dit ici au verset 5. Mais l'un des vieillard me dit, ne pleure pas, voici que le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Jésus, notre Seigneur, le lion de la tribu de Juda, lui, le rejeton de David, a vaincu. Et je l'ai dit récemment à Palerme, d'ailleurs. Vous saluent chaleureusement. Nous avons eu des réunions merveilleuses là-bas. Mais j'ai souligné que notre Seigneur n'a pas seulement apporté la réconciliation sur la croix à Golgotha, mais qu'il a vaincu la mort, qu'il a vaincu l'enfer et qu'il est ressuscité d'entre les morts le troisième jour, qu'il est apparu à Jean sur l'île de Patmos et qu'il lui a parlé. Voici, j'étais mort, mais je suis vivant et je détiens les clés de la mort et de l'enfer. Et nous voyons ici ce grand vainqueur, le vainqueur le vainqueur de Golgotha, comme le seul digne dans l'univers entier de prendre ce livre, d'en défaire les sceaux et de révéler ce qui y est écrit. Du verset 6, nous lisons Apocalypse 5, verset 6. Alors, je vis au milieu entre le trône et les quatre êtres vivants, d'une part, et les anciens, d'autre part, un agneau debout, comme s'il avait été égorgé. Il avait sept cornes et sept yeux. Ce sont les sept esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Alors l'agneau s'en alla et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Maintenant, faites attention au verset 8. Lorsqu'il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Chacun d'eux avait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Ce sont les prières des saints. Et ils chantèrent un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu t'es laissé immoler et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront comme rois sur la terre. Au moment même où il fut dit à Jean, « Ne pleure pas, voici que le lion de la tribu de Juda, la racine de David, le rejeton, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. » Jean regarda et il ne vit pas un lion, il vit un agneau, comme s'il venait d'être égorgé. Vous savez que le symbole du lion est déjà une référence à notre Seigneur en tant que roi. Le symbole de l'agneau est une référence à notre Seigneur en tant que rédempteur, qui a donné son sang sur la croix à Golgotha. Il s'agissait ici de la troupe rachetée, de la troupe rachetée par le sang, venant de tous les peuples, langues et nations, une troupe choisie par Dieu avant la fondation du monde. Et frère Branham a dit, lorsque le dernier homme dont le nom est écrit dans ce livre aura été appelé, alors le temps de grâce sera terminé. Nous ne savons pas quand ce sera, mais nous remarquons tout de même, à travers tout, que les choses commencent à bouger lentement, je dirais presque rapidement. Elle commence à bouger rapidement et que cela devient sérieux. Avez-vous remarqué au cours des quelques jours qui se sont écoulés depuis l'envoi de la dernière prédication et de la lettre circulaire, une grande partie de ce qui a été exposé s'est déjà réalisé. Nous savons que c'est écrit dans Romains chapitre 9, n'est-ce pas? Coup sur coup, le Seigneur fera arriver toutes ces choses qui doivent venir sur la terre. Je vais faire peut-être le lire pour que vous sachiez que c'est écrit ainsi. Romains, chapitre 9, verset 28. Wird der Herr, indem die Dinge sicher und Schlag auf Schlag, verset 28, « Car c'est sa parole que le Seigneur accomplira sur la terre en faisant en sorte que les choses se déroulent sûrement et promptement l'une après l'autre. » Donc, les gens ne s'y connaissent plus. Tous ceux qui, il y a quelques années encore, pouvaient faire des pronostics sur ceci et cela, se retrouvent aujourd'hui devant une énigme, car ils ne savent pas eux-mêmes de quoi demain peut être fait. Les choses sont devenues invisibles, incalculables. Personne ne peut plus dire si c'est comme ça ou comme ça. Non, on sait que du jour au lendemain, les choses peuvent être très différentes de ce que l'on pensait ou de ce que l'on voyait. Qui, en tant qu'être humain, aurait pu prédire l'évolution actuelle? En tant qu'enfant de Dieu, nous avons un avantage improbable. Nous ne voulons donc pas nous enorgueillir. Au contraire, nous voulons nous humilier. Mais vous savez que nous qui avons été appréciés, qui avons reçu la grâce de Dieu, et laissez-moi insister sur ce mot, apprécié. Savez-vous pourquoi? De même que seul l'agneau était digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux et d'en révéler le contenu, seul l'épouse est digne, rendue digne par l'agneau, par le sang de l'agneau, d'entendre de recevoir et de participer à ce qui a été révélé. Savez-vous que ceux à qui la volonté de Dieu a été révélée par la parole de Dieu ont une vision plus profonde, plus large, plus complète de ce qui se passe actuellement dans les derniers temps. Les politiciens et tous leurs conseillers ne connaissent pas le conseil de Dieu. Ils ne savent que ce qu'il a proposé, ce qu'il considère comme bon, ce qu'il pense, ce que celui-ci a proposé, ce que celui-ci considère, ce que celui-ci considère comme bon, ou bien ce que celui-ci pense, mais ils ne connaissent pas le plan de salut de Dieu. Et laissez-moi faire un pas de plus. Ils délibèrent sans celui dont il est écrit qu'il est le conseiller. Il est conseil. Et tous ceux qui se réunissent pour délibérer sans avoir au milieu d'eux celui qui est conseil, puissance, Père éternel, Prince de la paix, leur conseil sera réduit à néant. Leur conseil ne tient pas debout. Ils se sont consultés eux-mêmes et n'ont pas consulté celui qui seul a une vue d'ensemble d'éternité en éternité. D'éternité en éternité. Ainsi, en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons rendre gloire au Seigneur dans ce temps. Non pas comme si nous savions quelque chose par nous-mêmes, mais par la grâce de Dieu, nous avons été jugés dignes de discerner parmi des milliers et des milliers de choses et de personnes, même si elles sont très proches les unes des autres. Je vous donne juste un exemple. Je viens de le lire il y a quelques jours. Je vous en prie, ne soyez pas contre. Cela n'est pas adressé contre qui que ce soit. Cela n'est pas contre qui que ce soit. Mais la vérité de la parole de Dieu est indivisible. On ne peut pas adapter la parole à soi-même. Mais il faut se confronter à la parole de Dieu et être prêt à être en accord avec cette parole, sans vouloir l'adapter à soi-même. Mais même dans un mouvement charismatique qui peut donner l'impression extérieure que le ciel est descendu sur cette terre, n'est-ce pas? Un but éternel ne sera atteint que si la semence de Dieu a pu être planté dans le cœur des hommes. Oui. Sans une semence, tu peux faire pleuvoir autant que tu veux, rien ne se lèvera, rien ne sortira. La semence de la parole de Dieu doit d'abord être plantée dans les cœurs. Et nous savons, par expérience, qu'un agriculteur sait exactement quand il doit semer et quoi. Il sait quand et quoi. Et c'est ainsi que Dieu a également donné dans sa parole la semence pour tout le temps. Il y a une parole générale par la prédication de l'Évangile. Et il y a la parole qui nous est désignée comme parole prophétique qui a été prévue par Dieu pour une période de temps déterminée. Et j'ai eu l'occasion hier à Nuremberg de parler avec l'un des notables parmi les hommes d'affaires chrétiens. Et j'ai effectivement développé quelques idées, quelques pensées, donc avec l'aide du Seigneur. C'était un Américain et je lui ai dit très brièvement de quoi il s'agissait. Et vous savez, l'homme m'a regardé et a dit, « Frère, ce que tu dis est évident pour moi. » Et nous avons eu une conversation sur les choses spirituelles. Vous savez, l'un peut extrêmement ressembler. Donc, extrêmement, vous savez, l'un peut ressembler à l'autre. On peut faire les plus grands congrès, on peut stimuler, on peut faire bouger, on peut mettre de l'ambiance, on peut mettre des atmosphères dans tout. La question est-ce que c'est Dieu qui a mis l'ambiance? Est-ce que c'est Dieu qui a fait entrer cette atmosphère? Est-ce que c'est Dieu qui a pu parler? Est-ce que c'est son esprit qui est efficace? Et au fond, son esprit ne peut être efficace que là où sa parole est prêchée. Lisons le récit de la création. Et le récit de la création est une indication de l'action de Dieu qui ne change jamais. L'esprit de Dieu planait au-dessus de l'abîme. Mais il ne s'est absolument rien passé. L'esprit de Dieu pourrait encore planer aujourd'hui au-dessus des eaux et de l'abîme. S'il n'était pas écrit, et Dieu dit, rien ne se serait manifesté. Rien n'aurait apparu à la surface. Mais l'Esprit de Dieu flotterait alors encore aujourd'hui comme à l'époque. Et l'on se trouverait devant le même espace vide que celui devant lequel ils se sont tenus autrefois. L'action de Dieu, oui, mais en relation toujours avec ce que Dieu a dit, avec sa parole révélant sa volonté pour le temps et pour l'heure où elle doit se manifester. N'avons-nous pas encore entendu de la bouche du plus grand homme de Dieu de tous les temps que Dieu a donné à Moïse le message de la parole pour ce temps-là. Et il a dit textuellement, Élie ne se serait-il pas rendu ridicule en commençant par la mission de Noé et en commençant à construire un arche de son temps? Chaque homme de Dieu, chaque prophète, chaque âge de l'Église, chacun des sept anges ont reçu le message déterminé et révélé par Dieu pour ce temps et cet âge en question. Et c'était cette parole-là, dans cet âge, qui devait être apportée à l'Église. Celui qui passe à côté de cela dans son âge, passe à côté de Dieu dans son âge. Et laissez-moi dire ceci aujourd'hui aussi. Celui qui ne reçoit pas maintenant la parole révélée pour ce temps n'a aucune semence à semer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On ne peut pas semer ce que l'on veut à sa guise, des interprétations et de ses propres pensées. Non, Dieu a pour chaque époque ses promesses, sa parole. Il a son plan. Et lorsque nous lisons ici, dans ce passage de l'Écriture, que le Seigneur, que l'agneau, le lion de la tribu de Juda, était seul digne de prendre le livre, d'en défaire les sceaux et de regarder à l'intérieur. Et immédiatement après, les 24 anciens, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et ils prièrent. Ils adorèrent. Frères et sœurs, chers amis, il me tient très à cœur de souligner que nous avons été rendu digne par Dieu, honoré par Dieu de vivre l'ouverture des sceaux, d'en connaître le contenu. Ne savez-vous pas que du 17 au 24 mars 1963, le Seigneur lui-même est descendu dans notre temps, dans la colonne de nuée et de feu chaque jour vers midi et a ouvert le sceau à notre bien-aimé frère Branham et en a révélé lui-même le contenu qu'il a ensuite pu apporter fraîchement le même soir devant l'Assemblée. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Si déjà à l'époque, alors que l'ouverture des sceaux était encore éloignée de près de 2000 ans, si déjà à l'époque, l'adoration, la prosternation devant le trône de la grâce de Dieu. Si la louange s'élevait vers Dieu, qu'en est-il de nous aujourd'hui? Et que de nombreux croyants n'ont pas vu ni entendu pendant ces 2000 années ce que nous entendons et voyons aujourd'hui. Alors, quelle reconnaissance devrait alors se trouver dans nos cœurs? Et alors que nous portons désormais notre attention sur les prédications qui ont été prononcées après, qui ont été prêchées après l'ouverture des sceaux, je vous en prie, ne les lisez pas comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Ne les lisez pas comme on lit un livre, mais lisez-les avec respect, avec un profit intérieur, avec dévotion, recueillement, avec une adoration dans votre cœur, afin que Dieu, par son esprit, puisse aussi nous donner la révélation de la même manière qu'il l'a donnée à frère Branham. Cela n'est possible que si nous avons reçu la même onction du même Esprit de Dieu pour pouvoir recevoir la même révélation. Vous savez, certes, aucun d'entre nous ne serait digne, et surtout pas moi, de ne même pas ouvrir ce livre et de le lire, n'est-ce pas? Même d'ouvrir et de lire. Mais quelqu'un est digne, et c'est notre Seigneur. Et il nous a rendus dignes, toi et moi, en prenant sur lui ton péché et le mien, en allant sur la croix pour toi et moi, et en devenant une malédiction, afin que nous puissions être bénis. La rédemption n'est pas une chose que nous assimilons mentalement comme une conviction quelconque d'une croyance, non. La rédemption est un acte de Dieu lui-même dans ta vie et dans la mienne. C'est une expérience, un vécu que nous devons faire avec Dieu. Cela ne s'adresse pas à notre compréhension, mais à notre vie elle-même, à notre cœur et à notre âme. Ici, tous se sont prosternés. Les 24 veillards et les 4 êtres vivants. Et ils ont chanté un nouveau chant, un nouveau cantique. Vous savez que ce nouveau cantique sera un jour chanté par l'église épouse. Mais ici, le nouveau cantique a déjà été chanté parce que le contenu, parce que toute la chose est en rapport avec l'église épouse de l'agneau. Ce jour-là, nous pourrons chanter alors tous ensemble ceux qui sont déjà là-bas et ceux qui viendront encore. Et ils chanteront ensemble, comme il est écrit au verset 9. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu t'es laissé égorger et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Apocalypse 5, verset 9. Et ensuite, écoutez encore à partir du verset 11, ce qui est écrit dans Apocalypse 5, verset 11. Puis je regardais et j'entendis le chant de nombreux anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Et des êtres vivants et des vieillards, leur nombre était de 10 000 fois 10 000 et de 1 000 fois 1 000. Qui s'écriaient à haute voix. Digne est l'agneau qui s'est laissé immoler de recevoir la puissance et la richesse, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et la louange et toute la création dans les cieux et sur la terre, sous la terre et sur les mers et tout ce qui vit en eux. J'entendis crier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la puissance dans toute l'éternité. Et les 4 êtres vivants s'écrièrent Amen. Mais les anciens se prosternèrent et adorèrent. Les 24 anciens. Vous voyez l'ordre très clair et très précis. En premier lieu, les 4 êtres vivants et ensuite les 24 anciens. En deuxième lieu, 10 000 fois 10 000 et 1 000 fois 1 000 anges qui sont autour du trône. Et en troisième lieu, de manière définitive, tout ce qui est dans le ciel, sur la terre et sous la terre, toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Tout genou devra s'incliner devant lui lorsqu'il prendra le pouvoir, lorsque l'heure de Dieu aura sonné. Aujourd'hui, déjà, nous pouvons nous joindre à cette adoration, à cette louange. Oui, vous le pouvez. Vous direz, mais les 24 anciens et les 4 êtres vivants et les anges, les chérubins et les séraphins, ils pouvaient tous louer et célébrer et exalter sans souci. Ils n'avaient pas de besoin, ils n'ont pas de maladie, ils n'ont pas de mort, ils n'ont pas de problème. C'était facile pour eux. Je vous le dis dès aujourd'hui. S'il y avait un jour la possibilité de faire chanter d'un côté du ciel tous ceux qui n'ont jamais chuté, qui n'ont jamais péché, qui n'ont jamais été rachetés, si ceux-là chantaient d'un côté et la foule rachetée de l'autre, je pense que ce que nous aurions à chanter couvrirait leur chant. Nous savons ce que nous chantons. Pourquoi nous chantons? De quoi nous chantons? Nous étions perdus. Nous étions tombés dans la perdition. Nous avons reçu la grâce. Ils ont chanté grâce à l'inspiration qui leur a été donnée. Il en va de même pour nous, à la petite différence que nous, en tant que troupe rachetée, ressentons dans notre cœur une si profonde reconnaissance envers notre Seigneur. Même si nous n'y parvenons pas encore sur terre, que nous sommes peut-être encore alourdis et que nous ne pouvons pas prendre notre envol comme un aigle prend son envol pour offrir ses louanges à notre Dieu, l'heure vient où nous offrirons notre adoration sans souci, où nous chanterons le nouveau cantique du fond de nos cœurs. Alors, il n'y aura plus d'enrouement. Savez-vous ce que je vais vous dire? Le chant dans le ciel sera si fort que les 144 000 l'entendront sur cette terre. Je vais vous le lire pour que vous sachiez que c'est écrit dans la Bible. Je lis dans l'Apocalypse. J'espère seulement que je le trouverai aussi. Apocalypse 14. Apocalypse 14, du verset 2. Peut-être que je dois lire dès le premier verset pour que vous saviez, pour que vous puissiez savoir qu'il s'agit des 144 000. Apocalypse 14, verset 1. Oh, j'ai eu une vision. Je vis l'agneau debout sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes ayant son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel un bruit comme le bruit de grandes eaux et comme le roulement d'un puissant tonnerre. Mais en même temps, le bruit que j'entendais était comme celui de harpistes jouant de leur harpe. Ils chantèrent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les anciens. Et personne ne put apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Remarquez-vous de quoi il s'agit. Ici, la troupe rachetée chante même devant les 24 anciens et devant les 4 êtres vivants dans la gloire. Et ce chant du cantique nouveau est si puissant, une telle foule, on entend parfois parler d'une chorale d'hommes, et on entend que lorsque Billy Graham se produit quelque part, c'est une chorale d'hommes de 3000 voix qui chantent, et on dit, oh, c'est puissant. Mais que se passera-t-il lorsque nous nous joindrons tous à ce chant de louange en adoration devant notre Dieu, insouciant, libéré de toute souffrance terrestre, sorti de cette enveloppe mortelle, livré à la mort, mais qui sera changé lors du retour de Jésus. Comment cela se passera-t-il? Comment est-ce que cela se passera-t-il? Exactement comme la Bible décrit ici. C'était le son que j'entendis comme celui d'une harpe. C'était le bruit que j'entendais était comme celui de harpistes jouant de leur harpe. Ils chantèrent, le verset 3, un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les anciens. Et personne ne put apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Notez bien ceci. L'Église épouse est les prémices de tous les peuples, donc la troupe des premiers-nés de tous les peuples, langues et nations. Les 144 000 sont les premiers-nés d'Israël, donc les prémices. Mais avant que nous descendions du festin de noces et que le Seigneur pose ses pieds sur la montagne des oliviers, notez qu'il posera ses pieds sur la montagne des oliviers et que celle-ci se fendra. Zacharie chapitre 14. Mais les 144 000, on les a vus sur la montagne de Sion. Et la montagne de Sion est en effet un contrefort de la montagne de Moria. Et si nous ne pouvons pas entrer dans ces choses aujourd'hui, mais ce sont les 144 000 qui nous attendent, nous, l'Église, épouse, quand nous reviendrons de la fête des noces pour commencer alors avec eux le royaume de 1000 ans après que le Seigneur aura réglé son compte à tous les ennemis. Oh, s'il y avait aujourd'hui parmi nous une âme qui n'a pas encore consacré sa vie à Dieu. Mes amis, il n'y a d'avenir qu'en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'espoir en dehors de lui. Il n'y a pas de vie en dehors de lui. Les Saintes Écritures disent, celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. 1 Jean 5. Verset 11, il peut avoir n'importe quelle foi, n'importe quelle religion, la meilleure religion, mais il n'a pas la vie éternelle. Jésus-Christ est le vrai Dieu et la vie éternelle, le véritable Dieu. Tu dois l'avoir, lui, pour pouvoir vivre éternellement. Ici, dans Apocalypse chapitre 5, le Seigneur nous est présenté comme l'agneau immolé, celui qui est digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire et l'adoration de tout ce qui respire. Nous qui sommes déjà rachetés, nous pouvons dès maintenant lui offrir cette louange par grâce. Maintenant, j'en viens à la deuxième partie du service divin, à notre thème sur le baptême biblique. Et j'espère que les amis qui pourraient être ici comprendront que nous n'avons qu'une seule possibilité, et c'est de nous en tenir à ce que dit la parole de Dieu. Nous n'avons rien d'autre à quoi nous raccrocher. Et vous savez que selon Matthieu chapitre 28, notre Seigneur a donné un ordre très clair. Mais il faut le comprendre correctement. Matthieu 28, du verset 19. Ici, il est dit, allez donc faire de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai ordonné. Et sachez bien que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ensuite, je lis immédiatement les passages bibliques dans lesquels l'exécution pratique de l'acte de baptême a été consignée. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Pierre leur répondit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez aussi le don du Saint-Esprit. » Je continue à lire au chapitre 8. Et là, ça devrait être le verset 16. Verset 16. Actes Apôtres 8, verset 16. « Car il n'était encore tombé sur aucun d'eux, mais ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. » Vous savez, il y a différentes applications et il y a aussi des gens qui essaient de trouver un juste milieu. Mais la voie de Dieu est une voie droite, une voie tracée, une voie praticable. On peut la chercher, la trouver et on peut l'emprunter, mais seulement par la révélation du Saint-Esprit. Si le Seigneur avait dit dans Matthieu chapitre 28, immédiatement après avoir prononcé les mots, allez dans le monde entier, enseignez toutes les nations, faites-en mes disciples, baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est le Seigneur Jésus-Christ. S'il avait dit cela directement là-bas dans Matthieu, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est le Seigneur Jésus-Christ, s'il avait dit cela directement là, cela aurait été mis par écrit et il n'y aurait plus besoin des révélations du Saint-Esprit. Tout le monde aujourd'hui, qu'il soit juste ou faux, croyant ou incroyant, chrétien ou antichrist, tout le monde, donc chrétien ou antichrist, tout le monde se serait amusé à baptiser ainsi. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Rien n'a été omis, rien n'a été oublié et il n'est pas nécessaire d'ajouter quoi que ce soit. Il suffit de chercher la bonne réponse au bon endroit et je vous le dis, c'est là que nous la trouverons. Il y a des gens qui ont un engagement envers une dénomination qui utilise un passage biblique qui n'a rien à voir avec le baptême. En fait, ils disent, oui, le Seigneur Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas. Et c'est vrai, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Mais je vous en prie, cherchez, lisez un peu dans quel contexte a-t-il dit cela. Il y a beaucoup de choses dans la Bible écrite, beaucoup de choses que le Seigneur a dites. À qui l'a-t-il dit? Dans quel contexte cela a-t-il été dit? Lorsque notre Seigneur a dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, alors il est écrit directement. Il les prit dans ses bras, les serra sur sa poitrine et les bénit. Et il dit, si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous ne pouvez jamais entrer dans le royaume de Dieu sur terre. Donc, très récemment, on dirait, mais oui, il se moque de moi. Ce n'est pas ainsi, non. Et si le Seigneur te prend dans ses bras, tu es en sécurité, tu es rassuré. Laisse le Seigneur te prendre dans tes bras. Laisse-le te bénir par lui. Deviens comme un enfant. Deviens-le une fois. Notre problème, c'est que nous ne pouvons pas devenir comme les enfants. Que nous avons une grosse tête avec beaucoup de connaissances à l'intérieur. Et les enfants, que leur est-il arrivé? Tout à coup, ils se sont retrouvés dans les bras de notre Seigneur qui les a bénis et qui les a pris dans ses bras, qui les a serrés sur son cœur. Ne serait-ce pas beau si nous pouvions tous devenir aujourd'hui comme des enfants et dire: Seigneur, Sauveur fidèle, en ce jour, je me remets dans tes bras. Prends-moi dans tes bras. N'est-ce pas le prophète qui parle, ou Dieu parle au prophète? Sous toi sont étendus des bras éternels. Il a étendu ses bras. Revenons à notre sujet. Quand il s'agissait de bénédiction, il prenait les enfants, il les appelait à lui, les prenait sur son cœur et les tenait dans ses bras. Mais s'il s'agit du baptême, nous devons lire les passages qui parlent du baptême. Est-ce le cas ou non? Il faut tout de même lire sur le sujet dont on doit s'occuper en ce moment et pas sur autre chose. C'est déjà comme ça dans le monde terrestre. Si l'on étudie ou que l'on veut lire dans une certaine direction, on ne peut tout à coup pas prendre des choses qui n'ont absolument rien à voir avec le sujet. En ce qui concerne le baptême, laissez-moi vous lire ce que notre Seigneur a dit très clairement dans l'évangile de Marc au chapitre 16. Alors, il donne la condition pour ceux qui doivent se laisser baptiser. Au verset 15, donc. Puis il leur dit, Marc 16, du verset 15. Car il disait, celui qui aura cru et qui aura été baptisé. Donc, verset 15. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez dans le monde entier et proclamez le message du salut à toute la création. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Mais celui qui sera resté incrédule sera condamné. Donc, la foi est une condition préalable au baptême. Nous pouvons bénir les enfants. Le Seigneur peut bénir les enfants. Mais nous ne pouvons baptiser que les personnes qui sont venues à la foi, qui ont cru en Jésus-Christ, qui sont venues à la foi en Jésus-Christ. Des personnes qui sont devenues croyantes et croire. Au sens biblique du terme, signifie avoir accepté de tout cœur Jésus-Christ comme sauveur et rédempteur, lui avoir consacré sa vie et être prêt à marcher désormais avec lui. Nous allons lire le passage des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 47 et 48. Ici, Pierre, poussé par l'Esprit, parle et dit, « Peut-on refuser l'eau à ces gens qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous, afin qu'ils ne soient pas baptisés ?» Il ordonna donc qu'ils soient baptisés au nom de Jésus-Christ. Puis, ils lui demandèrent de rester avec eux quelques jours de plus. Ensuite, au chapitre 19, c'est le cinquième et le sixième verset. Après avoir entendu cela, ils furent baptisés, donc par leurs enfants, mais ils se laissèrent baptiser, pas leurs enfants, mais ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc après avoir entendu cela, ils se laissèrent baptiser au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus. Puis lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Et il y avait là en tout environ 12 hommes. Nous le voyons tout au long des Actes des Apôtres. Nous le lisons aussi dans Romains 6. Nous lisons encore et encore de quelle manière on baptisait dans le christianisme primitif. On le faisait au nom du Seigneur Jésus-Christ, en sachant que Dieu s'était révélé comme Père, Fils et Saint-Esprit dans ce nom qui nous avait été donné pour la rédemption et le salut. Vous savez que Dieu avait déjà les sept, ou les appels, on les appelle les noms de la rédemption dans l'Ancien Testament. Nous en reparlerons également. Mais dans le Nouveau Testament, il s'est révélé dans le nom de Jésus. Tu appelleras son nom Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Sauvera son peuple de ses péchés. Le nom de Jésus est en rapport avec le salut, en rapport avec le salut, avec la rédemption. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel qui ait été donné aux hommes dans lequel nous puissions être sauvés que le nom de Jésus. C'est pourquoi Paul écrit tout. Ce que vous pourrez faire en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Colossiens 3, verset 17. Nous n'avons pas besoin de la formule, nous avons besoin de la révélation du nom. Et savez-vous ce que notre Seigneur, notre Sauveur a dit? Jean 5, verset 43, « Je suis venu au nom de mon Père, vous ne me recevez pas. Mais si quelqu'un vient en son propre nom, vous l'accueillerez. Je m'appelle Franck parce que mon Père s'appelait Franck. Le nom du Père est aussi le nom du Fils. » Apocalypse 14, verset 1. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il est écrit au singulier, au nom, dans le nom du Père, au nom singulier du Fils et du Saint-Esprit. Il s'agit d'un seul nom. Et ce nom est Seigneur Jésus-Christ. Père, Dieu est ainsi décrit dans ce qu'il est. Il est Père, car il dit dans le psaume 5, verset 7. Psaume 2, verset 7. Tu es mon Fils. Je t'ai aujourd'hui engendré. Vous pouvez lire dans Samuel. Je n'ai pas le chapitre à disposition, mais il a dit, il me sera fils et je lui serai père. Vous savez que Dieu a ordonné toutes ces choses de cette manière, mais au fond, ce sont des formes de révélation, mais d'un seul et même Dieu. Savez-vous qu'il existe encore dans le Nouveau Testament? Je ne veux lire que ce seul passage dans l'Épître aux Galates. Cela y est exprimé en quelques mots seulement, de telle sorte que chacun pourrait le comprendre et le saisir. Galates, chapitre 3, peut-être que nous lisons du verset 19. Oui, Galates, chapitre 3, verset 19 et 20. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité, ou bien la semence, ou bien la descendance, à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Avez-vous tous lu? J'ai lu ça dans la Bible. Un médiateur ne représente pas un seul homme, ça nous le savons. Jésus-Christ est devenu le médiateur entre Dieu et les hommes en se révélant lui-même comme le Fils de Dieu. Mais en tant que médiateur, il nous représente tous. En tant que médiateur, il en représente plusieurs. Mais Dieu est un seul, donc constitué d'une seule personne. Permettez-moi de lire 1 Timothée chapitre 3, chapitre 2, verset 3 et 4. 1 Timothée chapitre 2, verset 3 et 4. C'est ainsi qu'il est louable et agréable aux yeux de Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il n'y a qu'un seul Dieu, de même qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir l'homme Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur Jésus est montré ou décrit à côté de Dieu, c'est soit comme médiateur, soit comme intercesseur, soit comme avocat, soit comme agneau, soit comme souverain sacrificateur, toujours dans une relation quelconque qui appartient au salut, une relation appartenant au salut. Mais lorsqu'il est décrit dans sa divinité, nous nous exclamons avec Thomas lorsque nous regardons Jésus. « Mon Seigneur et mon Dieu !» L'évangile de Jean, chapitre 20, verset 28. Alors nous regardons partout au-delà de cette forme de révélation. J'ai remarqué tout à l'heure en lisant Apocalypse 5 qu'il était question de sept cornes et sept yeux représentés symboliquement. En fait, un agneau n'a ni une ou ni sept cornes ou bien sept yeux, mais il y a tout de suite l'explication. Les sept cornes et les sept yeux sont les sept esprits de Dieu qui ont été envoyés sur la terre. Et là aussi, nous pouvons maintenant, mais vous le remarquez, nous ne verrons pas un agneau avec sept cornes et sept yeux, mais cela a été représenté symboliquement. Si nous regardons dans le prophète Daniel, il est dit du vieux vieillard aux cheveux blancs comme la neige vers lequel le Fils de l'homme vient. Oui, je vous le demande. Dieu est-il un arrière-grand-père ou est-il esprit? La Bible dit, Dieu est esprit. Dans Jean 4. Donc, Dieu ne peut pas vieillir. Dieu est d'éternité en éternité. Mais dans les symboles, on a exprimé des choses d'une grande, d'une énorme signification dans l'histoire du salut. Et s'il est déjà écrit dans la parole des psaumes, je crois que c'est le psaume 110. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne vous étonnez donc pas si Étienne voit le ciel ouvert et il voit Jésus à la droite de la majesté comme l'intercesseur. Tant qu'il y a encore un temps de grâce, il reste l'intercesseur pour toi et pour moi. Tout cela doit correspondre à 100% à l'Écriture sainte et cela correspond bien. Dieu peut en effet se manifester dans une telle diversité que cela dépasse de loin notre compréhension. Dans l'Ancien Testament, il s'est révélé sous la forme d'un ange. C'est pourquoi on l'appelait l'ange de l'Alliance et ce jusqu'au verset 1 de Malachie 3. C'est exactement de cette manière que l'Éternel, notre Dieu, s'est révélé dans la colonne de nuée et de feu. Et soudain, il y a un rocher au milieu du peuple d'Israël qui est frappé et de ce rocher sort de l'eau en abondance. Et Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 1, le rocher qui accompagnait le peuple d'Israël était Christ. Oui, que dites-vous de cela? Dieu peut se manifester dans une gloire, dans une diversité, et les intelligents et les sages n'en viennent pas à bout. Ils n'en viennent pas à bout. C'est la révélation, c'est la foi, c'est la confiance. Les choses ne sont pas écrites pour que nous nous creusions la tête, mais pour qu'elles nous soient révélées par l'Esprit de Dieu au plus profond de notre âme. Combien de fois l'ai-je dit, croyons chaque passage de la Bible tel qu'il est écrit. Et l'Esprit de Dieu alors nous guidera dans toute la vérité. En ce qui concerne le baptême, seuls peuvent être baptisés les personnes qui ont pris leur propre décision pour Christ, qui ont été interpellés par la parole, par l'évangile et appelés à la croix. Et chers amis, frères et sœurs, il n'y a pas de salut sans la croix de Golgotha. Vous savez que les religions païennes nous regardent de haut et disent, vous, avec votre Jésus là, et même avec son sang qui doit servir au salut, qu'est-ce que vous voulez en faire? Qu'est-ce que vous voulez en faire? En fait, mais que dit déjà l'Ancien Testament? Que l'âme, la vie est dans le sang, en Christ, en Christ. Il n'y avait que la vie divine, la vie de Dieu, selon l'Esprit et le sang divin, car l'engendrement avait eu lieu par l'Esprit. Le corps était une enveloppe terrestre. C'est par le corps qu'il est mort, dans le corps, selon le corps. Mais dans ce sang, il y avait la vie de Dieu, la vie divine. L'Esprit était aussi l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi il devait donner sa vie dans son incarnation, dans son humanité, dans sa manifestation dans la chair, afin d'apporter le salut et la rédemption pour nous qui, en tant qu'êtres humains, étions livrés au péché et à la mort, afin de nous les offrir, de nous les donner. Tout ce que Dieu a fait est bien fait. Il n'y a pas d'autre chemin que celui qui passe par la croix de Golgotha. Paul l'a exprimé en ces termes. C'est une folie pour les Grecs, pour les Grecs, et une offense un scandale pour les Juifs. Mais pour nous qui croyons, c'est une puissance de Dieu, à savoir l'évangile de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens 1, verset 18. Croyez-moi, s'il y avait une prédication de Jésus sans la croix, sans le prêcher comme crucifié, sans la prédication du sang de l'agneau, oui, ce serait une chose, mais pas pour nous, seulement pour ceux qui veulent se perdre de toute leur force. Celui qui veut être sauvé, qu'il vienne à Jésus-Christ par la voie prévue par Dieu, et qui ne s'arrête à rien et ne se laisse arrêter par personne. Alors, soudain, il reconnaîtra. C'est à cause de moi, Seigneur, que tu t'es laissé frapper. C'est à cause de moi que tu as saigné. C'est à cause de moi que tu es monté sur la croix. À cause de moi que tu as tout pris sur toi et que tu t'es exclamé, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Juste avant, il était encore écrit, « Le Père est toujours avec moi parce que je fais ce qui lui est agréable. » Jean 8, verset 29. Et soudain, quand il a pris ta place et la mienne, quand ton péché et le mien ont été placés sur lui, ta malédiction et la mienne, notre malédiction et tout ce qui t'avait frappé, toi, ce qui t'avait atteint, toi et moi, et qu'il a pris ta place et la mienne, il s'est exclamé du fond du cœur, dans la détresse la plus profonde de son âme. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était ton cri, c'était mon cri. Et à l'instant d'après, la lance lui a traversé le flanc. Le sang a jailli et toi et moi avons été réconciliés avec Dieu à ce moment-là. L'abandon de Dieu, le fait d'être séparé de Dieu, le mur de séparation, l'obstacle, tout d'un coup était balayé. Tout a été effacé. Lorsque la paix avec Dieu pénètre mon âme, alors mon cœur exulte et se réjouit. Notre Seigneur a tout fait pour toi et pour moi. Si tu l'as accepté comme ton sauveur, comme ton rédempteur, alors n'aie pas honte d'en témoigner, d'entrer à sa suite, de le suivre, de couper tous les ponts derrière toi. Si tu suis le Seigneur et si tu veux atteindre le but, ce n'est certainement pas en revenant en arrière. Tu ne peux qu'aller de l'avant que si tu veux. Tu peux aller de l'avant. Si tu veux atteindre le but, tu ne peux que aller de l'avant. Je voudrais donc vous encourager tous à regarder au Seigneur de manière nouvelle cet après-midi, à le voir comme le crucifié. Et alors nous reconnaissons aussi et comprenons ce que ces paroles tentent d'exprimer. Tu es digne, ô Seigneur. Personne dans le ciel, personne sur la terre et sous la terre, personne d'autre n'a été suspendu à la croix. Personne d'autre n'a donné son sang et sa vie. Personne n'a pris ta place et la mienne, si ce n'est le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela sur la croix à Golgotha. C'est pourquoi il est digne de prendre le livre, d'en défaire les sceaux. C'est lui qui l'a fait. Nous le croyons, je le crois, avec une conviction totale. Je ne le crois pas seulement, je le sais. C'est plus qu'une croyance, c'est une connaissance divine. Et vous tous qui êtes familiers avec le message de la fin des temps et avec le ministère de Frère Branham, vous savez comment le Seigneur lui a parlé dans une vision, probablement le 22 décembre 1962, et a dit, « Va au nord de Tucson, en Arizona, car je vais te parler. » Et le 28 février 1963, Frère Branham était là, dans ces montagnes. Soudain, cette énorme nuée de gloire est descendue. Et Frère Branham était littéralement enveloppé dans cette nuée. Et il vit sept anges qui se tenaient devant lui en forme de pyramide enveloppé dans cette lumière. Et il compta de gauche à droite, car ils étaient un peu classés dans cette forme, comme ils se tenaient là devant lui. Et le Seigneur lui a dit, « Retourne à l'est, retourne à Jeffersonville, d'où tu es venu, car le temps d'ouvrir les sept sceaux d'Apocalypse 5 est venu. » Et puis est arrivé mars 1963, donc directement 14 jours plus tard, lorsque les sceaux ont été ouverts et le contenu révélé. Dieu nous a envoyé un message par l'intermédiaire d'un messager, un message de nature prophétique que tous ne recevront pas. Mais l'âge dans lequel nous vivons est justement un âge prophétique. Et l'esprit de prophétie, c'est ce qui compte maintenant. Pas seulement le don de prophétie, comme il est écrit, le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Et si, à cette époque, toute la prophétie de l'histoire du salut devait être résumée, Apocalypse 15, verset 5, Dieu ne pouvait faire autrement que d'envoyer un prophète à qui la parole vient, à qui la parole est venue, et qui, tel un canal, pouvait ensuite transmettre cette parole. Si nous l'accueillons, si nous recevons cela avec tout notre cœur, Dieu nous bénira certainement et nous ouvrira la compréhension pour ces choses. Je sais que lorsqu'on parle de ces choses, elles sont un mystère pour la plupart des gens. Une énigme, ils ne peuvent rien en faire. Je vous demande cet après-midi, sommes-nous dans le royaume de Dieu, oui ou non? Si oui, alors nous savons ce que Dieu a fait et ce qu'il fait dans son royaume. Si nous ne savons pas ce que Dieu a fait dans cette génération, nous devons nous poser la question de savoir si nous sommes vraiment dans son royaume. Si nous étions dans son royaume, le Seigneur dit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pas aux autres. Matthieu 13, verset 11. Il dit, ce que j'ai décidé, je l'exécute. Il dit, mon dessein s'accomplira. Il dit, interrogez-moi sur l'avenir. Il connaît le passé et le présent. Il connaît l'avenir. Et amis, frères, sœurs, Laissez-moi vous le dire. Nous ne connaissons peut-être pas l'avenir, mais nous connaissons celui qui le connaît. Et il nous guidera jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Loué soit son nom glorieux. Amen.